toutes, voilà. Merci d'être ici ce matin pour venir écouter un entretien avec Andrea Eschbach. Donc Andrea Eschbach est allemand, c'est un auteur de science-fiction allemand et je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez déjà certains connaissent peut-être tous les romans traduits en français, d'autres même ceux qui ne sont pas encore traduits en français. Bien, donc on va profiter de cet entretien déjà pour un peu mieux connaître Andreas, qui va peut-être, vous allez nous expliquer comment vous êtes venu à la science-fiction, quelle est votre formation, donc.
Oui, comment est-ce que je... Mon premier contact avec la science-fiction, c'était quand j'étais jeune, un enfant, et j'étais persuadé par des couvertures avec des vaisseaux spatials et des extraterrestres. Et c'était des grandes aventures qui m'ont intéressé. Et j'ai lu beaucoup de livres dans ce genre. Ça, ouais, c'est une influence forte sur tout ce que j'ai fait. Mais je commence toujours avec l'idée pour une histoire. Et seulement à cause de cette influence, il y a toujours quelque chose de la science-fiction dans mes histoires, une voyage dans le temps ou un extraterrestre ou une histoire qui joue sur une station spatiale ou choses comme ça. À mon formation, j'ai étudié l'aérodynamique à Stuttgart, mais je n'ai pas fini parce que j'ai commencé mes études sous l'impression que ça a quelque chose à faire avec
avec l'espace.
Avec l'espace.
On rêve de... Donc, finalement, vos lectures ont même influencé vos choix d'études.
Oui, oui, oui. Mais j'ai trouvé que je ferais du mal à... la profession des constructeurs des aéroplanes et des vaisseaux spatiaux. Et non, j'étais un mauvaise étudiante, alors à un certain point, j'ai coupé et continué avec la technologie informaticien. Et j'ai fait j'ai programmé des ordinateurs pour une dizaine d'années. C'était plus proche à l'écriture parce qu'on tape sur un clavier aussi quand on fait des programmes.
Puis en tant que programmeur, on a un petit côté démiurge, quelqu'un qui maîtrise ce qu'il est en train de faire. On crée quelque chose.
Oui, on crée quelque chose. Un logiciel, c'est aussi une sorte de texte.
Et sa vie après.
Sa vie après.
Il y a le texte, mais après, il y a autre... on crée presque un petit être qui va vivre...
Oui, comme un roman.
Oui.
Et aussi, on a aussi des feedbacks immédiats, parce que si on oublie quelque chose, un virgule ou un point, on a toujours une sorte d'éditeur électronique qui dit « Non, ça ne va pas ». Et c'était un pas vers l'écriture des romans. J'ai commencé à écrire des romans quand j'étais jeune aussi. À 12 ans, j'ai écrit mes premières nouvelles mauvaises.
Il en reste des traces de ces nouvelles?
Oui, je les ai toujours, mais je les garde soigneusement. Dans le tiroir parce qu'ils sont mauvais, ils sont les premiers pas d'un
C'est sûr que quand on a 12 ans, on a des très bonnes idées, on a envie de faire passer plein de choses. C'est pas que ce soit mauvais, c'est peut-être que...
Oui, mais les idées sont...
C'est un peu flou. Et...
Oui, les idées sont plutôt des copies, elles sont volées par des autres. On lit quelque chose, on dit, bah, ça me fasciné ou terrifié et je veux faire une chose comme ça. Et on presque copie. Et on apprend dans cette manière, mais c'est pas il ne faut pas publier les choses comme ça.
Bien sûr. Donc, après avoir, ou en parallèle à ce travail de programmeur, vous avez commencé à écrire pour de vrai, enfin à être publié. Comment ça s'est passé?
J'ai écrit toujours, mais j'ai pensé longtemps que c'est impossible d'être publié parce que tout le monde a raconté des choses horribles sur combien de livres sont écrits et des manuscrits sont écrits et meurent sur la route de publication. Et je n'avais pas la confiance. Mais quand j'avais environ 30 ans, j'ai décidé qu'il faut au moins essayer pour... parce que c'était quelque chose que je voulais faire. Et j'ai décidé, bon, je vais essayer au moins. Et j'ai commencé avec une petite nouvelle que j'ai écrite il y avait quelques ans plus tôt pour un petit magazine littéraire. C'était 86 quand j'étais en contact avec ce magazine littéraire. C'était un petit magazine de 200 exemplaires par mois qui ont été vendus. La plupart étaient des poèmes, choses comme ça. Mais à cette époque, il y avait une petite coin science-fiction. Et l'éditeur de cette coin, je le connais parce qu'il était sur l'université avec moi, et il m'a demandé, je cherche quelque chose, 4 pages, une petite nouvelle pour publier. Est-ce que tu as quelque chose? Et j'ai dit, oh, oui, bien sûr. Il savait que j'écris. Mais en vérité, c'était pas vrai. Je n'avais pas une histoire, je n'avais pas un texte prêt, mais je me dis, bon, je vais écrire une histoire de 4 pages. Et je fais comme ça. Et c'était le texte qui est maintenant le premier chapitre de Milliards de tapis de cheveux.
D'accord.
Et c'était publié dans une manière très, très moche. C'était une édition de cet magasin qui ne me plaisait pas du tout. Mais 4 ans plus tard, j'ai rencontré quelqu'un qui a tout de suite associé à André Sechbach. C'était vous qui a écrit cette histoire sur les tapis de cheveux. Et j'ai dit oui.
Et ça vous a surpris?
Ça m'a surpris et ça me donne de confiance parce que j'ai eu l'impression, bon, j'ai touché un sujet qui a quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose là-dedans. Et j'avais déjà eu l'idée de continuer écrire des autres nouvelles dans le même environnement autour de cette histoire. Au début, j'avais l'idée pour 4 ou 5 petites nouvelles. Et j'ai commencé à écrire Et en temps d'écriture, j'ai eu des autres idées et ça a augmenté un peu. Et il faut dire que à cette époque, j'ai eu difficulté à compléter des textes longs. Mm-hmm. Je n'avais pas la confiance d'être capable d'écrire un livre de 300 pages.
Maintenant, 300... ça ne vous fait plus peur. Hein?
Oui, c'est comme avec des millions, la première, c'est la plus difficile. Et pour un romancier, c'est le premier roman, d'avoir la première fois accompli cette énorme compte de pages. Mais je me dis, bon, je n'ai pas confiance d'être capable d'écrire un roman de 300 pages ou plus. Bon, c'était inimaginable. Mais j'ai eu confiance de compléter des nouvelles. Alors je vais écrire des nouvelles qui forment une sorte de puzzle. Et on verra, peut-être ça va aussi donner une histoire. Et dans cette manière, c'est la raison pour la structure extraordinaire de ce roman. C'était à cause d'une faiblesse de mon part, parce que je ne m'estimais pas capable d'écrire une longue histoire. J'ai écrit beaucoup de petites choses et j'ai fait dans une manière que il donne un fleuve d'histoire. Et c'était la c'est l'histoire de leur première histoire.
D'accord. Et donc, une fois que cet ensemble de petites histoires, là, il va être vraiment publié, et ça va, cette fois-ci, vous prenez confiance et vous commencez à vous dire, bon, maintenant, on vous en a redemandé d'autres, et puis là, il a fallu se mettre à l'écriture de choses plus grandes. Comment ça s'est passé? C'était une demande de l'éditeur de fournir quelque chose parce que le premier avait bien marché? C'était...
Non, c'était pas tellement facile parce que c'était pas facile de trouver un éditeur à cause de cette structure extraordinaire. La plupart des éditeurs ont dit bon, c'est pas un roman, c'est pas une collection de nouvelles, c'est pas fantasy, c'est pas science-fiction, c'est un peu pas hors de tout. Et dans quelle étagère le libraire va-t-il mettre ce livre? Non, c'est trop difficile comme
dans
livre.
La vitrine uniquement.
Oui, c'était pas un argument valable à cette époque. Non, j'ai trouvé un éditeur plus tard. J'ai cherché pour presque 2 ans et et pendant que j'ai attendu la parution du roman ou du livre, j'ai déjà commencé à écrire le prochain. Et c'était à cause de cette réaction que je connais. Bon, un éditeur m'a dit, oui, c'était écrit pas mal, mais j'ai eu l'impression c'est pas d'action et aussi pas d'atmosphère, c'est pas assez, c'est pas décidé qu'est-ce qui se veut être ce roman. Et après, j'ai téléphoné avec ce monsieur, et après cet entretien, j'étais assis dans mon chair et j'ai réfléchi, bon, du côté atmosphère, j'ai donné tout. C'est tout ce que je peux faire dans le régime de créer une atmosphère, c'est dans ce livre. Mais le genre action, j'ai pas déjà commencé. C'était quelque chose que j'ai eu confiance d'être capable de faire mieux. à cause de ces romans que j'ai écrits avant pour mes amis et, qui étaient une sorte de thriller que j'aimais aussi. J'aime les deux mauvais genres. J'aime que c'est la science-fiction et le thriller. Alors j'ai décidé, je vais écrire un thriller. Et je vais écrire un thriller sur une station spatiale, juste pour donner un peu de goût de science-fiction. Et c'était le deuxième roman, Station solaire. Et c'est à cause de ça, c'était quelque chose de tellement différent. Et ça a déjà commencé quelque chose qui est... que j'entends beaucoup, vos livres sont tellement différents. Ça a commencé déjà avec
oui,
le deuxième.
Oui, effectivement. Ouais, ça c'est, j'irais, au moins, c'est une constante. On se demande, bon, le prochain, ça va être quel genre?
c'est à cause... c'est parce que moi, je ne m'occupe pas beaucoup des genres. Ça ne m'intéresse beaucoup. Ce que je m'intéresse, c'est l'idée, c'est l'histoire. Et je suis soumis sous ce que cette idée demande. Et tout après, quel genre, dans quelle étagère, ça, c'est la profession des éditeurs, des libraires de décider, pas à moi. Parce que si c'est à moi de décider, c'est facile. Il faut établir une étagère Eschbach et tout est réglé.
Oui, je crois que c'est le plus simple.
C'est le plus simple.
Voilà, donc ensuite, vous êtes parti dans l'espace. Et là, ça a été publié.
C'était publié, oui.
Et plus facilement, en fait, que le premier.
Oui, oui, si on a déjà un livre publié, c'est plus facile.
Déjà, c'est plus facile. Et le genre était aussi peut-être plus simple.
Hein. J'ai eu... c'était une coïncidence que c'était un éditeur qui aussi ne s'occupait pas trop des genres. Ils ont.
D'accord. Il vous a pas redemandé le même, parce que ça des fois aussi c'est un peu.
On attend
justement d'un auteur qui refasse quelque chose dans la même lignée que le premier.
Oui, oui, oui. C'est quelque chose que j'avais peur parce que je ne peux pas écrire des milliards de tapis et cheveux volume 2. Ça me paraît impossible.
Ben oui.
Alors j'ai eu un peu peur et c'est à cause de ça que j'ai envoyé apprentice que j'étais à cette époque, j'ai envoyé cette manuscrit aussi à des autres éditeurs et j'ai reçu une demande de deux. Alors j'étais dans la situation de me décider l'éditeur des milliards de tapis de cheveux ou notre qui m'a proposé pas mal des conditions et dans cette situation j'y rêvais pour des années d'une cette situation qu'on a. Une situation on peut se décider pour le meilleur
quelle était la meilleure stratégie maintenant?
Et dans cette situation, j'ai eu contact avec une agence littéraire et à part de ce moment, j'ai eu un agent qui s'occupait de tout, c'est, qui dirige mon bateau d'écriture. Parmi les naufrages et tout, les
d'accord,
les
donc
vagues
qui aide à gérer ce genre d'état d'âme, qu'est-ce qu'on doit faire, quel est le meilleur choix. Et à partir de là, c'est la production des romans va être assez régulière.
Oui, ça a commencé à être intéressant, mais Les deux premiers romans, ils se vendaient pas très bien. L'édition originale de Tapis de cheveux, j'ai vendu 2000 500 exemplaires ou choses comme ça.
Ah oui.
Et la deuxième, pareil. Et l'éditeur était un peu déçu. Il a dit, moi, il faut, monsieur, je parle, il faut écrire quelque chose
qui soit vendeur.
Qui se vende, qui est un breakthrough.
Il faut trouver un sujet où même ceux qui ne vous connaissent pas regardent la quatrième de couverture, regardent le résumé et se disent, ah, celui-là, j'ai envie de le prendre.
Oui. Et j'ai déjà commencé à écrire le troisième livre basé sur une idée que j'avais il y a 10 ans avant. J'ai collectionné des idées pour romans depuis toujours, qui a été agrandi dans les régions derrière de mon cerveau pour des années. C'était le Jésus vidéo. Sûr, pendant que j'ai écrit ce livre, j'étais sûr ça va être un succès. Mais quand le livre était publié, il y avait un autre livre à la même temps que l'éditeur a acheté pour une grande somme. Et il a mis tous les autres livres à côté. Il a proposé au public seulement cette livre qui était un miss success, un échec.
Oui.
Incroyable. On dit en Allemagne qu'il y a plus de livres qui sont retournés aux éditeurs
que ceux qui ont été vendus.
Alors c'était une année très inconfortable pour l'éditeur d'édition originale, et aussi on a vendu pratiquement rien. Et j'étais aussi très déçu parce que j'étais sûr que c'est un livre avec du potentiel pour être un vrai succès. Et le succès arrivait seulement avec l'édition poche chez un autre éditeur.
Parce que malgré même si ça n'a pas été un gros succès, c'est quand même passé en poche.
Oui, c'était.
Ce qui n'est pas toujours évident. Hein,
parce oui, c'était que... le contrat était fait avant.
Ah.
Avant.
D'accord.
La publication. Et là, c'était en printemps 2000. Le livre est paru en poche et il a commencé de se vendre. Et l'éditeur original, il ne le savait pas longtemps. Il était sur une conférence des libraires des stations ferroviaires. Il y a une association des librairistes qui sont dans les gares. Et eux sont dit à lui, vous avez un best-seller dans votre l'édition proche. Et il ne savait pas. Et il appelait mon agence et il était... mais à ce temps, j'ai déjà proposé un autre roman à cet éditeur et tout le monde a dit non, ça ne nous intéresse pas, on ne veut pas. Et bon, c'était dans cette époque que j'ai changé de ce premier éditeur, Schneekloot, ou mon éditeur présente, Bastel-Lubé, où je suis toujours.
Mm-hmm.
Où je suis plutôt chez moi.
Oui, ben, ça c'est des histoires, petit à petit, ça se construit.
Mm-hmm.
Et donc, effectivement, Jésus Vidéo, là, ça a été un autre rythme, je crois, parce que...
Oui.
Je pense même ceux qui s'intéressent peu à la science-fiction en Allemagne, on dit Jésus Vidéo, on dit Andreas Eschbach, il y a tout de suite Jésus Vidéo qui vient en premier titre cité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce roman ?
C'était...
Parce que les Français ne le savent pas forcément. Hein.
De quoi il s'agit?
Globalement, peut-être résumer un petit peu, oui. Mais aussi ce qui s'est passé après, puisque qu'est-ce qui a fait que ça c'est devenu... Puisqu'ensuite, il y a eu une adaptation, il y a eu plein de choses.
Oui, oui.
Peut-être déjà un petit résumé pour ceux qui ne connaîtraient pas, très, très rapidement. On trouve, lors de fouilles archéologiques, un caméscope Sony qui va être mis en vente dans 3 ans. Donc forcément, il y a un truc qui est bizarre et la tombe date d'à peu près 2000 ans. Donc on la situe au moment où le Christ devait vivre, à l'endroit où il devait vivre. Bon, tout ça, ça commence à intriguer.
Ça donne l'idée que c'est peut-être un voyageur dans le temps qui est venu dans cette époque pour faire une vidéo de Jésus-Christ. Et peut-être il a caché le vidéo quelque part où il peut être trouvé aujourd'hui. Et c'est l'histoire où c'est possible et qui va...
Donc ça nous emmène dans le milieu des fouilles archéologiques. Voilà.
Livre s'est vendu très bien et c'était fait dans un film pour la télévision.
Donc à partir du moment où ça passe à la télévision, c'est encore une autre échelle de notoriété.
Oui. Même si le film n'est pas bon, qui est malheureusement le cas, mais n'importe. On est un auteur filmé et ça augmente l'échelle. Oui, c'est un autre pas sur l'échelle. On est quelqu'un.
Un auteur de best-seller, après un auteur
filmé.
De best-seller filmé. Oui. Donc là, à partir de ce moment-là, je pense que votre la facilité à obtenir des contrats intéressants, faire publier des tas de choses, voire même peut-être republier les anciens.
Tout ça.
C'est... Tout ce qui était un peu confidentiel au départ, ça s'est mis à repartir. Hein.
Oui. Il faut dire.
C'était en quelle année alors le passage télé de Jésus Vidéo?
Je pense que c'était en 2002 quand il
D'accord.
était. D'accord. Décembre 2002 quand il
D'accord.
était.
D'accord. C'est pour situer un petit peu par rapport à aujourd'hui.
Oui,
donc.
Oui.
Donc ça fait, disons, une grosse dizaine d'années, 10-12 ans que ça commence à.
Oui. C'était autour de ce changement d'éditeur que j'étais capable de laisser tomber mon autre profession comme. Programmeur et écrire seulement. Ouais. C'était aussi un pas important. Mais c'était un peu forcé parce que avec le prochain livre qui malheureusement n'est pas traduit en français, c'était le roman $1 billion qui a prévu la crise financière d'aujourd'hui un peu. Qui est aussi c'est mon deuxième grand best-seller après le Jésus Vidéo. Mm-hmm. Et il était en train de parure en 2001 et j'étais obligé de faire un voyage des rencontres très long, de publicité. Et ça ne va pas avec une profession comme l'informatique où on est obligé d'être là pour si quelque chose ne marche pas. Alors, j'ai décidé de terminer cette profession, cette business. Et j'ai retrouvé un vieil ami dans 7 ans que je n'ai vu depuis 10 ans qui avait fait la même chose que moi en informatique. Et je lui dis... Tu as besoin de quelques clients? Et il dit, ouais, bien sûr. Alors, j'ai quelques clients pour toi. Et il les a toujours.
C'est bien, ça.
Oui.
C'est bien, finalement. Donc, ça a fait deux personnes
heureuses, oui.
heureuses dans cette opération. D'accord. Donc, voilà. Donc, à partir de 2002, là, c'est l'écriture à temps plein. Et donc aujourd'hui, vous avez combien de romans publiés en Allemagne?
Plus ou moins une vingtaine.
Et traduit en français?
Elle compte.
Oui.
La moitié?
10 quand même traduits en français. Ça veut dire que pour les fans francophones, il y a encore pas mal de choses à découvrir.
Oui, oui, oui.
$1 billion, celui-là, je pense, un milliard de dollars.
Non, pas un milliard, un billion.
Billion. De dollars. Donc ça, ça risque d'être traduit puisque. Enfin, ça a des chances, pas ça risque, ça a des chances d'être traduit.
C'est un livre très épais et c'est pas de la science-fiction.
Ah oui, d'accord. Donc c'est...
Enfin,
en panne sèche, c'était pas vraiment de la science-fiction non plus.
Oui, oui, c'est plutôt un billion de dollars, c'est un roman dans la proximité en panne sèche.
Parce qu'en panne sèche, parlait de l'arrivée de la fin du pétrole bon marché. Il ne faut pas dire de la fin du pétrole, de la fin du pétrole bon marché, mais qui est, c'est presque de la simple prospective. C'est plus que de la science-fiction. Hein.
Oui.
D'accord. Voilà, donc on est en 2002 et là, vous allez pouvoir publier, écrire vraiment à votre rythme, à votre convenance, en vous faisant plaisir et donc en redécouvrant tous les genres, en publiant tout type de genres qui vous plaisaient, mais toujours avec un lien avec la science-fiction ou du moins avec une réflexion sur la société telle qu'elle va.
Je ne fais pas cette variété par exprès, ça arrive... Pendant l'exploration des idées diverses. Et je ne pense pas que je suis obligé de faire la même chose encore une fois. C'était plus agréable. Si on a un best-seller, ça facilite toutes les choses dans la vie d'un écrivain. Et à partir de ça, on a une bonne relation avec l'éditeur. On peut parler sur toutes les difficultés, toutes les questions de parution, d'édition, de couverture, choses comme ça. Non, je suis très content avec la situation. Et j'essaie toujours... C'est normal, j'essaie toujours d'écrire des livres qui sont intéressants pour beaucoup de gens. Parce que moi aussi, j'aime lire des livres qui sont fascinants, qui sont passionnants. Et pour être capable d'écrire un livre, il faut être aussi une histoire passionnante.
Il faut se nourrir. L'étincelle qui fait que vous avez envie d'un seul coup de traiter du clonage ou d'autres thématiques, comment ça se passe? Qu'est-ce qui vous intrigue? Est-ce que vous lisez des informations scientifiques qui vous intriguent ou d'autres romans de science-fiction? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous dites « Ah, là-dessus, il faut que j'écrive quelque chose ».
Par exemple, un livre sur le clonage, on lit des livres des médecins, des biologistes sur le sujet. Oui. J'aime beaucoup lire des livres, donné que je les comprends, mais on en a beaucoup, sur des sujets scientifiques. Et parce que c'est difficile de lire un livre... Par exemple, sur le cloning de Dolly, sans avoir une douzaine des idées pour roman.
Bien sûr.
Et ça me plaît toujours. Et c'est plutôt, on commence avec l'idée, ça donne, ça demande quelques recherches, quelques profondément dans un certain sujet. Par exemple, le clonage. J'avais ce livre sur Dolly qui est des parentes de Dolly, les deux scientifiques anglais qui ont fait cet animal. C'est bien écrit, c'est un vrai bon livre. Et je pourrais prendre beaucoup des informations qui sont intéressantes pour le roman, mais c'est le deuxième stage. La première étape, c'est toujours l'idée, l'histoire. Et s'il y a quelque chose qui est commun de tous mes livres, c'est toujours la question, quel est l'avenir de l'humanité? Je pense...
Où allons-nous?
Oui.
D'accord. Alors là, j'aimerais aussi vous poser une question complètement différente, mais qui concerne le contexte de la science-fiction en Allemagne. Comment ça se passe? Parce qu'en France, on vous connaît en science-fiction. Quels sont les autres écrivains allemands qui sont disponibles en français, en science-fiction pure? Parce qu'ici, il y en a, mais c'est pas...
Oui, c'est la fantasy.
C'est fantasy. Et quels sont... est-ce qu'il y a un potentiel important d'écrivains qui pourraient être traduits?
Oui, les écrivains qui sont déjà traduits, par exemple Markus Hammerschmidt ou Michael Marak, ce sont des écrivains très bien de science-fiction aussi. Il y a des autres. Il y a moins d'écrivains de science-fiction en Allemagne qu'en France, parce que en France, la science-fiction est plus reconnue dans la vie publique qu'en Allemagne.
Je ne sais pas, mais je pense je ne sais pas, il y a quand même des phénomènes particuliers en France, comme les petits éditeurs ou les revues, oui, oui. Et les festivals comme ici. Je ne sais pas, c'est cette vie aussi à côté qui rend la science-fiction française...
Par exemple, il y a des festivals, bien sûr, de la science-fiction, mais ce n'est pas sur ce niveau qu'ici, une ville qui s'occupe de tout, et chose comme ça. C'est plutôt des petites rencontres de 200 ou 300 fans dans un hôtel, quelque part, où toutes les choses sont pas chères, et on se rencontre, on en parle, mais... C'est pas dans les magasins, personne ne prend notice de ça. Pas des affiches dans la ville, et pas le maire n'arrive jamais à des réunions comme ça.
Ah oui, d'accord.
Les festivals qui sont plus grands, ce sont les festivals autour de la série Perry Rodan, quand ils ont des...
Alors, c'est quoi Perry Rodan? Voilà, ça c'est un... tout le monde connaît.
Oui, alors Perry Rodan, c'est la grande série de science-fiction. Et, quand il avait l'édition 2000, c'était un grand festival à Mannheim. Et il y a 2 ans, ils ont eu l'apparition de numéro 2500. C'était aussi un grand festival, mais c'est financé par l'éditeur.
Je crois que pas mal ont été traduits en français. Pas mal. Certains ont été traduits en français chez Fleuve Noir.
Oui,
c'est comme ça que c'est connu en France.
Livre poche, mais on est en retard un peu.
Chez Fleuve Noir, ça a été la première bascule de couverture. Donc ils sont passés à la couverture blanc et bleu.
Mm-hmm. D'accord.
à l'époque, c'était pas numéroté, il y avait
hors série. D'accord, hors série Fleuve Noir, les Perry Rodan qui étaient traduits.
Et... Il y a pas que les Perry Rodan dans la série hors série, mais le premier Perry Rodan est le seul hors série qui n'a pas porté de numéro dans la collection principale.
Donc effectivement, là, on a quelques personnes qui peuvent nous donner des. Qui peuvent même vous raconter l'histoire de la traduction des Perry Rodan vers le français. Donc oui, pour revenir à la manière dont la science-fiction se vit en Allemagne, c'est quand même, mis à part les rencontres Perry Rodan, ça reste quand même plus
faible,
plus confidentiel.
Plus confidentiel. C'est une scène où chacun connaît chacun. Il y a quelques éditeurs très petits qui font par exemple des traductions des romans de certains qui se spécialisent sur un auteur américain qui n'est pas traduit ou sur un sujet. Il y a aussi des genres à côté, horreur, par exemple. Il existe un petit éditeur qui a pas mal de succès, d'ailleurs, parce que les fans, ils ne sont pas nombreux, mais ils sont fiers et fidèles. Mm-hmm. Et ça, c'est comme ça. Et parmi les grands éditeurs, il y a deux ou trois qui publient de science-fiction, Heine, Pastelube et Ullstein, Goldman, je ne sais pas. Bon, c'est un coin qui existe, mais qui n'est pas très profitable. La fantasy, c'est différent. La fantasy est toujours profitable. Il y a des grands noms et des grands succès, mais la science-fiction, c'est toujours...
En science-fiction, est-ce que les auteurs étrangers sont facilement traduits en allemand, ou est-ce que c'est... quand on parle d'auteurs étrangers, est-ce que c'est forcément des auteurs anglo-saxons, ou est-ce qu'il y a d'autres...
La plupart, oui. Ouais. Des Anglais, des Américaines. Et parfois, il arrive qu'un auteur français ou espagnol ou...
Même dans les grandes maisons, mais ça. Oui. Lesquels d'ailleurs, dans les auteurs français, sont disponibles en allemand?
Pierre Bordage.
Pierre Bordage, bien sûr.
Jean-Marc Lény est disponible avec son roman Aqua. Pierre Bordage avec les premiers des tomes de Guerrière de silence et Terra Mater, c'est disponible. Une auteure espagnole. Elia Barcello est disponible avec deux petits romans, mais plutôt la fantastique. Roman, c'est un voyage dans le temps, mais pas de sorte technique, mais plutôt fantastique. C'est pas expliqué comment ça se passe. Mais un très bon roman, d'ailleurs.
D'accord.
Donc, des autres, mais je ne suis pas lui qui connaisse tout dans le genre science-fiction en Allemagne.
Non, mais c'est un peu pour voir dans quel cadre, comment ça se passe aussi de l'autre côté, de l'autre côté du Rhin, pour vraiment par curiosité. Et parce que maintenant, vous vivez en France, donc vous avez l'occasion de voir les différences.
Oui, c'est ça.
C'est de participer peut-être à plus de rencontres importantes. Vous étiez...
J'étais à Saint-Malo.
À Saint-Malo, aux Utopiales.
Utopiales, quelquefois. Cette année, je suis invité aussi. Et aussi au Mans, j'étais. Quelques petits festivals dans la région Bretagne. J'étais invité. C'était aussi.
Puis en Allemagne, vous continuez aussi à être très demandé au niveau média, parce qu'avec la notoriété que vous avez, comment ça se passe?
Oui, je suis demandé. Parfois, j'y vais, mais bon, je Je pense, mon profession, c'est l'écriture, pas de, le
oui,
voyage.
Pas. D'accord. Vous voyagez au travers de votre écriture, c'est déjà pas mal.
Oui, oui.
D'accord. Bien, là, je vois, il est déjà moins 10, peut-être juste avant de se quitter. Quelques mots sur les dernières parutions en français pour les lecteurs qui sont là. Donc, dernière parution, c'était
C'est là,
c'est ça.
Deuxième tome de la série Out, Hideout après Blackout.
Donc là, la thématique.
Bon, c'est la question.
Non, c'est rien.
C'est la question. Qu'est-ce qui va se passer si on connecte des cerveaux directement? C'est un vilain très très inconnu jusqu'ici, un vilain très très nouveau et c'est un thriller, une bataille entre l'humanité qu'on connaît, une sorte de surhumanité,
d'intelligence globale.
C'est vrai que
c'est une thématique que l'on ressent de plus en plus avec la connexion des uns et des autres à Internet. Et après, qu'est-ce qui nous dirige? Est-ce qu'on ne serait pas chacun des petits neurones d'un gros système?
Oui, c'est ça.
C'est un peu l'image que l'on a. D'accord. Donc, le second tome vient de paraître en français.
Et le troisième est promis pour entre novembre et début 14.
Et puis, il y a des traductions de choses qui sont déjà parues en Allemagne, qui sont dans les tuyaux.
Oui.
Pour les fans qui attendent. Donc.
Oui, le livre prochain va être Le Maître de la Matière. C'est un roman autour le sujet de nanotechnologie.
Ah.
Mais c'est aussi une histoire d'amour, c'est aussi un thriller, c'est aussi un roman autour des énigmes historiques, autour de la question pourquoi les extraterrestres ne sont pas déjà arrivés chez nous. Là, c'est une question qui est connue sous le nom le Fermi paradoxe.
Oui, le paradoxe, ouais. Paradoxe de Fermi, voilà.
Paradoxe de Fermi. Et tout ça, c'est dans ce livre épais.
Ça promet. En tous les cas, merci beaucoup, Andreas. Et je vous invite à continuer à découvrir Andreas en achetant ses livres, en allant le voir sous le chapiteau. Et à bientôt. Au revoir.
Au revoir.